La chapelle historique du Bon Pasteur est l'hôte d'une rare exposition en milieu urbain rassemblant différentes expressions d'art brut. Et à mes côtés, bien, j'ai le grand plaisir de pouvoir m'entretenir avec le commissaire de cette exposition spéciale, aussi professeur de philosophie, à mon grand étonnement, et bien, Hugues Brouillet est à mes côtés pour nous présenter cette exposition, donc titrée « Attention, état brut ». Très bienvenue.
Merci, merci, merci.
L'art brut est lui-même très hétérogène. Qu'est-ce qui caractérise l'art brut? Qu'est-ce qui permet justement de rassembler autant d'artistes dans le cadre de cette exposition-là? Quelles sont les caractéristiques de l'art brut?
Bien, en fait, si on fait un petit rappel historique très rapide, c'est Dubuffet qui a un peu inventé le nom et jusqu'à certains points le genre, parce qu'il cherchait un peu une sortie à une modernité que lui voyait s'épuiser, et rencontrant un psychiatre et ami qui lui disait que dans son institut, il y avait des gens qui faisaient des choses absolument extraordinaires avec différents médiums, et a invité Dubuffet à aller faire un tour. Donc, à partir de là, Dubuffet, lui, a constaté effectivement qu'il y avait des gens qui faisaient des choses absolument fabuleuses dans ces institutions-là, et il s'est mis à faire finalement le tour d'Europe de ces institutions, et à ramasser...
Tout un travail entrepris, hein?
Tout un travail, oui, effectivement, et il a ramassé une collection absolument fabuleuse. Ben, à partir de ce moment-là, il a finalement, on pourrait dire, découpé sur mesure cette espèce de créneau de ce qu'il appelait l'art brut. Alors bon, il y a plusieurs critères et, qui sont parfois extrêmement restrictifs, comme par exemple le fait que l'individu doit être psychiatrisé, le fait que l'individu doit être tout à fait libre de toute influence. Déjà là, c'est quelque chose qui a été quand même largement contesté, parce que peut-on imaginer aujourd'hui, par exemple, une personne qui soit totalement libre de toute influence artistique? C'est extrêmement difficile à imaginer. À l'époque de Dubuffet, c'était encore possible, et en fait, par rapport à ça, Dubuffet était assez lapidaire, et il disait, bon, ben, oui, mais effectivement, si ce n'est plus possible, à partir des années 70-80, avec tous les médias, ben, c'est qu'en fait, il n'y en a plus d'art brut. Alors, on peut voir à quel point, effectivement, ce créneau était extrêmement étroit.
L'art brut pur, selon la définition de Dubuffet.
Oui.
Mais l'art brut de maintenant, comment on pourrait le définir?
Souvent, les gens nous disaient, bon, est-ce que finalement, c'est de l'art-thérapie? Est-ce que c'est de l'art-thérapie? Bien, en fait, la différence absolument majeure, quant à moi, entre l'art-thérapie et l'art brut, c'est que, avec l'art-thérapie, vous amenez des gens à l'art pour leur faire du bien. Et c'est une excellente chose. Dans le cas de l'art brut, on pourrait dire que c'est presque exactement l'inverse, parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont déjà dans l'art. En fait, ils ne pourraient faire rien d'autre que cela. Si vous leur enlevez leur crayon, si vous leur enlevez leur bout de bois, si vous leur enlevez leur tapisserie, si vous leur enlevez leur broderie, ils vont arrêter de vivre.
C'est une extension d'eux-mêmes, absolument.
C'est totalement une extension d'eux-mêmes. Ce qu'on peut constater chez les gens qui font de l'art brut, c'est que même s'ils voient de l'art de ce qui se fait ailleurs, même s'ils peuvent consulter des livres, regarder la télé, des documentaires, et ils le font, ils demeurent quand même parfaitement imperméables. Dans ce sens que ils font de façon...
Ils laissent libre cours à leur monde intérieur.
Ils ne peuvent que faire ça. Dans le sens que, c'est même plus que ça, dans le sens que on pourrait dire à ce compte que tous les artistes laissent libre cours à leur monde intérieur jusqu'à un certain point, mais eux, c'est plus que ça, c'est qu'ils ont beau regarder différentes influences, ils ont beau trouver... Ils demeurent imperméables parce qu'ils ne sont pas vraiment... En tout cas, ce que j'ai pu constater, moi, personnellement, en les côtoyant, ils sont assez imperméables parce qu'ils ne sont pas vraiment touchés par l'art des autres. Et ils sont touchés par leur travail. Ils sont totalement investis dans ce travail. Et c'est en ce sens, je pense que...
Ils sont habités vraiment d'une pulsion de créer qu'ils ne parviennent pas à contrôler.
Totalement.
Et pour avoir interviewé Mme Claire Labonté, c'est tout à fait son cas. Elle peut passer des journées en atelier et elle ne comprend pas le nombre d'heures qu'elle peut passer dans son atelier. Elle ne se l'explique pas.
C'est quelque chose qui, effectivement, est tout à fait de l'ordre de la compulsion, de l'ordre, on pourrait dire, et là, j'utilise des termes et je ne voudrais pas aller trop loin dans la caractérisation de type psychologique ou psychanalytique, mais C'est de l'ordre de la manie, en fait. Hein? C'est de l'ordre de la manie. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent dans le travail des artistes bruts, on retrouve justement là cette manie. Par exemple, vous allez prendre une toile de 3 mètres carrés et vous allez la couvrir de signes et de symboles. C'est des choses qui prennent des jours et des jours à travailler. Il y a quelque chose là de quelque chose de maniaque et d'obsessif. Et aussi, si ce n'est pas, si la toile, elle n'est pas totalement couverte all over d'inscriptions et de graphiques et de graphèmes, eh bien, ce que vous allez retrouver, c'est par exemple une production absolument monumentale. Par exemple, chez Daniel Urban, on peut compter littéralement des milliers d'œuvres, littéralement. Hein? Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez vertigineux quand on rentre dans
Comme vous dites, ça répond à un besoin vital, alors c'est hors de contrôle.
Voilà. Alors, c'est du 16 jours par semaine, s'ils le peuvent, et c'est du 10 heures, 11 heures par jour, s'ils le peuvent, et ça n'arrête pas de sortir d'eux. Dans le cas des artistes bruts, ce que moi, j'ai pu constater, c'est qu'il y a une immense cohérence. Il y a quelque chose d'extrêmement synthétique dans leur travail parce que justement, étant libre d'influence, eh bien finalement, ils tournent toujours autour de ce qu'ils ne savent que faire, c'est-à-dire une portion extrêmement congrue de ce qu'est l'art. Et ils creusent, et ils creusent, et ils creusent.
Écoutez, merci beaucoup pour cette entrée en matière, parce qu'effectivement, on vient de parler d'un grand débat, hein, qu'est-ce que l'art brut? Encore maintenant, les gens peuvent se questionner, et c'est parce que c'est une catégorie qui n'est pas homogène, mais hétérogène, tout à fait. Alors, vous, à titre, vous êtes donc commissaire de cette exposition-là, rassembleuse d'une vingtaine d'artistes, qu'est-ce qui vous a guidé dans votre sélection d'œuvres? Je vois ici, je m'entretiens présentement avec M. Yves Brouillet, dans son domicile. Et je vois que vous êtes aussi collectionneur, donc vous avez une passion de l'art brut au départ.
Oui, absolument, mais... une connaissance relative, mais là, par rapport à ça, je suis tout à fait modeste, parce qu'en fait, moi, j'ai eu l'idée de faire cette exposition d'art brut. J'en avais parlé à Simon Blanchet, qui est agent culturel à la Chapelle historique du Bon Pasteur. Il m'avait donné carte blanche. Et en fait, vraiment, très modestement, je me suis retourné immédiatement vers ceux qui s'y connaissent, mais qui s'y connaissent vraiment.
C'est ça, vous allez aller chercher l'avis de trois galeristes majeurs.
Ben en fait, pour être plus exact, deux galeristes majeurs et un, on pourrait dire, directeur du Musée des Arts Singuliers, futur directeur du Musée des Arts Singuliers, parce que le Musée des Arts Singuliers est encore en construction. Alors oui, effectivement, Robert Poulin de la Galerie Robert Poulin, Jean-Robert Bisaillon de la Galerie des Nanas et Patrick Caddy, effectivement, collectionneur, mécène, psychanalyste, écrivain et aussi, effectivement, prochainement, directeur du Musée des Arts Singuliers à Mansonville. Je me suis retourné vers ces gens-là parce que eux, ce sont vraiment des passionnés de ça et qui sont extrêmement investis là-dedans. Mm-hmm. Alors, très modestement, je me suis retourné vers eux et je leur ai dit, est-ce que vous me permettriez de fouiller dans votre collection, de regarder votre travail, le travail des gens que vous soutenez et qu'on regarde ensemble et qu'on fasse le tri de ce qui peut donner une exposition qui soit en même temps, qui ait en même temps une certaine cohérence et en même temps qui livre un panorama vraiment pertinent, signifiant et authentique.
Oui, c'est vraiment tout l'intérêt de cette exposition, ça me donne un aperçu des différents artistes qui font partie de ce regroupement d'artistes d'art brut.
Absolument, artistes d'art brut, hors norme, outsider. Il y a plusieurs caractérisations. Ce serait peut-être un peu long de faire toutes les nuances et les différences nécessaires à ça. Mais ce qu'on a voulu faire, effectivement, c'est offrir un bon panorama, non seulement des artistes comme tels, mais aussi, je pense que vous l'avez remarqué, un panorama des médiums utilisés. C'est-à-dire que vous avez vu que chez nous, dans la galerie, dans l'exposition, pardon, il y a de la broderie, il y a de la sculpture sur bois, il y a de la céramique, il y a de l'acrylique, des huiles.
Il y a des œuvres créées avec des objets trouvés, des objets recyclés.
Absolument, absolument. Et ça, on sait que c'est souvent des caractéristiques des bruts et aussi des outsiders, c'est-à-dire qu'ils utilisent des matériaux pauvres pour créer leurs œuvres, des matériaux recyclés, trouvés sur la rue, des choses comme ça. Et donc, c'est un double panorama, en fait. Hein. On voulait montrer que l'art brut, c'est différents médiums. des médiums qui sont eux-mêmes souvent hors normes, et aussi différents artistes, effectivement, qui travaillent de façon aussi assez différente. Vous avez vu que, par exemple, il y a un Philippe Azéma qui travaille effectivement ses toiles de manière extrêmement minutieuse, qui les couvre de signes, de symboles. C'est comme une espèce de palimpseste. Donc, on a Philippe Azéma qui est très dans le hallover, comme ça, de graphèmes extrêmement, extrêmement concis, extrêmement précis. Et vous avez de l'autre côté un art beaucoup plus gestuel, beaucoup plus organique, comme celui de Daniel Urban, par exemple.
Alors, Daniel Urban, d'ailleurs, à qui on rend hommage dans le cadre d'une exposition solo à la Maison de la Culture Frontenac. J'en suis absolument ravie, qui est malheureusement décédé récemment.
Décédé, effectivement, en janvier passé. Daniel Urban, c'est un travail absolument fabuleux. Dans mon exposition, j'ai dit Daniel Urban, mais vous faites bien souligner qu'à la Maison de la Culture Frontenac, en ce moment, et pour encore quelques semaines, il y a une fabuleuse exposition dans une des salles qui est un solo de Daniel Urban organisé par son fils et par Robert Poulain. Alors, je salue en même temps et le fils de Daniel et Robert pour ce travail absolument exceptionnel. Ça vaut vraiment la peine tout à fait d'être vu.
Et il y a aussi dans vos critères, je pense, de commissaire, je lisais un petit peu que votre formation, vous êtes un enseignant en philosophie, a pu aussi vous amener à faire une certaine sélection.
Ben en fait, c'est que...
Du moins dans la disposition des œuvres, hein,
je pense. Oui, ben en fait, c'est sûr que mon approche, elle est en partie intuitive, mais elle est nécessairement guidée aussi, par le travail que je fais au niveau de la philosophie esthétique. En fait, au départ, je voulais me coller un peu sur la façon dont les expositions dans les années 20, 40, 50, et y compris les expositions de Dubuffet d'Art Brut étaient montées, c'est-à-dire quelque chose d'assez chargé, quelque chose d'assez lourd et on pourrait dire lourdement scénarisé. Oui. Et après avoir discuté avec Simon et après y avoir réfléchi moi-même, je me suis dit que finalement, ce que je voulais faire, c'était pas tellement recréer une atmosphère, et je trouvais ça un peu passé.
Une atmosphère d'époque.
Oui, exactement. Et je trouvais ça un peu passéiste que de recréer cette espèce d'atmosphère d'époque. Alors, finalement, ce que je me suis dit, c'est que j'étais pour laisser plus d'oxygène aux œuvres, parce que je pense que ce qui manque beaucoup pour ces œuvres-là, c'est justement des espaces comme la chapelle, des espaces qui sont vraiment...
Oui, extraordinaire espace.
Effectivement, oui, tout à fait. Des espaces absolument extraordinaires. Oui. Et je me suis dit que le mieux que je pouvais faire pour ces œuvres-là, et pour les artistes, pour leur rendre hommage, c'était de laisser respirer justement les œuvres et ce qu'on appelle un peu les gentrifier, hein, si on veut, et donc les montrer sous leur meilleur aspect et dans une certaine, on pourrait dire solennalité, j'oserais même dire une forme de sacralisation, parce que je pense que quand on rentre dans la chapelle, ce que j'espère avoir réussi quelque chose, c'est que quand on rentre dans la chapelle, on est tout de suite pris par le caractère quasi sacré, en tout cas du moins un peu oratique des œuvres. C'est un commentaire que Simon, qui est là plus souvent que moi à la chapelle, m'a fait, c'est que souvent les personnes qui sont venues à l'exposition, dès qu'ils rentraient dans la salle, ils ressentaient une vive émotion. Et parfois, ils ne trouvaient pas nécessairement les œuvres belles. Bon, on pourrait revenir sur la question de la beauté par rapport à l'art brut, mais ils ne trouvaient pas nécessairement les œuvres belles, mais ils trouvaient toujours ça très poignant de voir ses œuvres, et il trouvait ça toujours aussi très poignant, ne serait-ce que d'entrer dans ce lieu-là. Et moi, en fait, c'est précisément ce que je voulais faire. Si j'avais...
Peut-être qu'on pourrait parler maintenant de quelques artistes. On a parlé de deux artistes, peut-être, de M. Daniel Urban, on a parlé de Philippe Azéma. Peut-être nous parler de... pour vraiment pas survoler tous les artistes, mais de quelques artistes représentatifs, là, pour donner envie d'aller voir cette exposition de près, pénétrer dans cet univers sacré.
Ah, écoutez, il y a tellement de coups de cœur sur la vingtaine d'artistes. Je pense tout de suite à Martine Birobant. Martine Birobant qui...
Effectivement, c'est mon coup de cœur aussi, hein, et bien sûr Marion Osler.
Tout à fait, Marion.
Qui ont beaucoup en commun.
Oui, absolument, ouais. Beaucoup en commun, Marion Osler. Ce que j'aime particulièrement, par exemple, de Martine Birobant, bon, quelqu'un d'extraordinairement engagé, qui était, parce que Martine
Birobant... Qui est malheureusement elle aussi décédée.
Absolument, Martine Birobant nous a quittés. Mais donc, c'est quelqu'un d'extraordinairement entier, Martine Biroban, d'extraordinairement engagé dans son travail. Et ses poupées muselées, parce que, évidemment, les auditeurs ne peuvent pas, pas les voir, mais je les invite à aller les voir. Elle prend des poupées classiques, banales, qu'on peut retrouver dans n'importe quel marché de jouets. Et en fait, elle les couvre, elle les habille d'un tricot, en les muselant aussi, en leur donnant une espèce de...
En les ornementant,
oui, tout à fait, oui. Et en les muselant. Et c'est tout un rapport, en fait, avec le rôle de la femme qui a été tellement muselée. Et le crochet...
Le rapport à l'enfance aussi.
Le crochet qu'elle utilise est aussi et un rapport à l'enfance et un rapport au métier traditionnel dans lequel les femmes ont été trop enfermées. Alors, il y a quelque chose dans ce travail-là, quand on voit les poupées de Martine, il y en a plusieurs quand même à l'expo, quand on les voit et qu'on comprend ça, il y a quelque chose d'extrêmement touchant et d'extrêmement juste dans l'expression.
Qui nous interpelle face à l'œuvre.
Tout à fait, absolument. Ouais. Une autre que je trouve absolument extraordinaire, qui, elle, nous a pas quitté du tout, c'est Marie-Lou Friel. Marie-Lou Friel, c'est une femme qui habite aujourd'hui dans l'ouest de l'île de Montréal et qui est une brodeuse. Mais une brodeuse absolument exceptionnelle parce qu'en fait, son canevas, il est dans sa tête et elle couvre parfois de très grandes surfaces, 1,20 m par 1,50 m facilement. Elle les couvre d'une broderie extrêmement fine, plusieurs points différents de broderie. D'ailleurs, c'est une coloriste exceptionnelle de surcroît. Et elle les couvre en fait d'une espèce de théâtre extrêmement particulier, un imaginaire que moi j'avais jamais vu, que j'avais jamais côtoyé d'aucune façon. Et vous regardez les œuvres de Martine Biroban et c'est d'une minutie extrême, c'est d'une grande beauté et c'est un imaginaire encore une fois que je trouve parfaitement original. Et ce qui est encore une fois dans le cas de Martine Biroban, comme dans le cas de Marie-Lou Friel, vous reconnaissez ces œuvres-là, je veux dire, à un kilomètre, vous savez que c'est du Biroban. Je veux dire, à un kilomètre, vous savez que c'est du Marie-Lou Friel. On ne peut pas se tromper. Mmh. Elles sont tellement originales, tellement singulières.
Il y a tellement toute une charge, des œuvres chargées, mais qui ont aussi toute une charge émotive.
Totalement, une charge émotive.
Et des dénonciations, en quelque sorte.
Oui. Mais oui, il y a des dénonciations et il y a une prise en charge d'une certaine violence dans le monde, une certaine dénonciation des pouvoirs oppressants. Chez Daniel Orban, par exemple, bien évidemment.
Et on n'a pas parlé de M. Patrick qui a dit lui-même que vous avez consulté, mais qui lui-même expose des œuvres avec du bois mort. Alors moi, j'étais très interpellée par les œuvres de Patrick Caddy.
Oui, ben Patrick Caddy, c'est un personnage qui est singulier aussi, hein, évidemment. Comme je le disais tantôt, psychanalyste, écrivain, mécène, collectionneur et artiste.
Des œuvres dans des boîtiers absolument fascinantes.
Oui, absolument. Ces boîtes dans lesquelles il enferme effectivement ces personnages ou ces bois qu'il laisse libres comme ça, comme des statues, un peu comme les statues de l'île de Pâques, par exemple. C'est quelque chose d'assez fascinant aussi, effectivement, et on pourrait dire que lui, c'est déjà un personnage singulier, bien évidemment, mais on peut dire que ce qui fait sa singularité en tant qu'artiste, c'est qu'on pourrait penser que le fait d'avoir côtoyé des artistes bruts et le fait d'avoir beaucoup réfléchi, lui, sur ce qu'est l'art brut, l'a amené en tant que psychanalyste, d'une certaine façon, hein, si on veut, à opérer une espèce de parcours régressif en lui-même pour retrouver des états premiers. Hein, pour retrouver des états premiers, parce que, évidemment, Patrick Caddy, intellectuel, universitaire, etc., bien évidemment, n'est pas un brut en soi. Il est au contraire tout sauf brut, mais en même temps...
Mais il a fait une démarche de retrouver en lui cette œuvre primaire l'habite.
Tout à fait, il a fait cette démarche qu'on pourrait, en philosophie, on pourrait appeler une époquée, c'est-à-dire une espèce de réduction... De tout le bien connu, une réduction de toute la culture qui nous environne, une réduction de tout ce travail d'élaboration et de concept pour en arriver effectivement à une épuration telle que là, dans cette épuration, il y a une monstration, il y a une démonstration du caractère extrêmement primaire de la psyché qui l'habite comme elle habite en fait tout un chacun.
Alors, mon Dieu, Merci beaucoup, hein, Monsieur Hugues Brouillet. Donc, c'est une exposition à voir, hein, une vingtaine d'artistes là, qui font partie de l'art brut, selon la vision de trois personnes clés, hein, deux galeristes, un futur directeur de musée, Monsieur Patrick Caddy, et Monsieur Hugues Brouillet aussi, selon la vision du commissaire, Monsieur Hugues Brouillet. Donc, une des rares expositions permettant d'avoir un aperçu de l'art brut. On n'en a pas assez parlé, mais non seulement d'artistes d'ici, mais aussi d'ailleurs, d'outre-mer. Peut-être en terminant, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus souvent d'expositions comme ça, collectives, rassembleuses?
Bien, vous savez, sans doute quelqu'un comme Robert Poulin ou Jean-Robert Bisaillon, on aurait beaucoup à dire par rapport à ça, parce qu'ils défendent l'art brut depuis des décennies, et ils savent à quel point en Nord-Amérique c'est difficile. Bien, ça fait des décennies qu'en Europe, ça fait des décennies qu'aux États-Unis, l'art brut a des expositions. Pensez à New York, par exemple, il y a des trucs fabuleux qui se passent. Et ici, je trouve que on est en le marché de l'art est... Et les critiques d'art, et enfin toute cette institution art au Québec, est un peu timorée par rapport à cela. Et je pense que c'est un peu un combat d'arrière-garde, parce que je pense qu'au contraire, il faudrait vraiment donner toutes ces lettres de noblesse à ces formes d'art qui sont vraiment exceptionnelles, qui sont absolument exceptionnelles.
Alors, il y a eu quelques contributions ici, comme le 1700 à la poste dans un passé récent, qui exposait Mme Claire Labonté. Alors, merci beaucoup, M. Hugues Brouillet, de m'avoir reçu dans l'intimité de votre domicile ici, entouré de plusieurs œuvres, parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais vous êtes aussi, vous débutez une collection, hein, assez importante. On a ici beaucoup d'œuvres réunies. Alors, merci beaucoup, M. Hugues Brouillette. Une exposition, donc, qui malheureusement tire à sa fin. Donc, on peut voir jusqu'à quelle date?
En fait, c'est jusqu'au samedi. C'est ce samedi. Samedi 4 novembre, il va y avoir une dernière ouverture de ce côté-là. Et j'inviterai les gens aussi à aller voir à la Maison des Cultures Frontenac non seulement le solo de Daniel Urban, mais une super exposition de la galerie Robert Poulin, de Robert Poulin.
Absolument, je l'ai vu, c'est extraordinaire.
Marginaux et Franc-Tireur, un super travail de ce côté-là aussi.
Merci beaucoup, Hugues Brouillet.
Merci à vous.